Aucune, à ce qu'il me semble. Comme son erreur n'est pas volontaire, tâchons doucement de le détromper. Mon cher ami, lui demanderons-nous, d'où vient la distinction établie entre l'honnête et le déshonnête? N'est-ce point parce que l'un soumet la partie animale de notre nature à la partie humaine, ou plutôt divine, et que l'autre assujettit à la partie sauvage celle qui est apprivoisée? N'en conviendra-t-il pas? Oui, s'il veut m'en croire. Dans ce point de vue, où est l'avantage pour quelqu'un de prendre de l'or injustement, s'il ne peut le faire sans assujettir la plus excellente partie de lui-même à la plus méprisable? Quoi? Si pour de l'or il lui fallait sacrifier la liberté de son fils ou de sa fille et les livrer à des maîtres durs et barbares, il croirait y perdre? Dût-il acquérir par là les plus grandes richesses? Et quand ce qu'il y a en lui de plus divin est asservi sans pitié à ce qu'il y a de plus pervers et de plus ennemi des dieux, n'est-ce pas là pour lui le comble du malheur? Et l'or qu'il reçoit à ce prix ne lui coûte-t-il pas beaucoup plus cher que ne coûta à Eriphile le collier fatal pour lequel elle vendit la vie de son époux? Oui, certes, beaucoup plus. Je réponds pour ton interlocuteur. Si toujours on a condamné les mœurs licencieuses, n'est-ce pas, je te prie, parce qu'elles lâchent la bride à ce monstre énorme, terrible, à plusieurs têtes? Évidemment. Pourquoi blâme-t-on l'arrogance et l'humeur irritable, sinon parce qu'on y voit grandir et se développer le naturel farouche du lion et du serpent? Sans doute. Et le luxe et la mollesse, ce qui les fait blâmer, n'est-ce point l'affaiblissement et le relâchement de ce même naturel y dégénérant en lâcheté? Oui. Si l'on blâme encore la flatterie et la bassesse, n'est-ce pas parce qu'elles asservissent le principe irascible et courageux à ce monstre turbulent, et que la soif insatiable des richesses l'avilissant dès sa jeunesse, change peu à peu le lion en singe? Oui, c'est cela. Et l'état d'artisan et de manœuvre, d'où vient, dis-moi, qu'il emporte une sorte d'injure? N'est-ce point parce qu'il suppose dans la meilleure des trois parties de l'homme une telle faiblesse que, ne pouvant prendre l'empire sur les deux autres, ces animaux dont nous avons parlé, elle est réduite à les servir et n'est capable que d'étudier les moyens de les satisfaire? Il y a toute apparence. Si donc nous voulons donner à de pareils hommes un maître semblable à celui qui gouverne l'homme vertueux, n'exigerions-nous pas qu'ils obéissent aveuglément à cet homme qui lui-même obéit intérieurement à la voix de Dieu? Sans penser pour cela que l'obéissance doive tourner à leur préjudice, comme, dans l'opinion de Thrasymaque, elle tourne au préjudice des sujets en général. Nous pensons au contraire qu'il n'est rien de plus avantageux à chacun que d'être gouverné par un maître sage et divin, soit que ce maître habite au-dedans de nous-mêmes, ce qui serait le mieux, soit au moins qu'il gouverne de dehors, afin que, soumis au même régime, nous devenions tous amis et semblables les uns aux autres. Le plus possible. Fort bien, Socrate.